Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui est un grand jour. Un grand jour car enfin, Transversar consacre une de ses éditions au théâtre. Et pas n'importe lequel, car nous vous parlons aujourd'hui Siècle d'or, à l'occasion du cycle que lui consacre jusqu'en février le TNP de Villeurbanne. Y sont présentés tour à tour Don Quichotte de Cervantes, La Célestine de Fernando Rojas et Don Juan, non celui de Molière, mais le texte source, le Don Juan de Tirso de Molina. Alors faites entrer cap, épée, intrigue au clair de lune, moulin à vent et autres prêtres douteux, car aujourd'hui, la parole est à Christian Schiaretti. Christian Schiaretti qui est venu vous parler de tout ce bruit et de toute cette fureur. Christian Schiaretti est directeur depuis 2002 de la scène nationale qu'est le TNP, et il est initiateur et metteur en scène de cette trilogie du siècle d'or. C'est en sa compagnie que nous avons réalisé un entretien que nous vous proposons en première partie de ce transversaire.
Oui, et déjà, à l'heure où nous vous parlons, notre deuxième invité nous attend dans le petit salon. Et quel invité ! Pauline Noblecourt est étudiante en théâtre et présidente de l'association En Scène. Grâce au stage qu'elle effectue en ce moment au TNP, elle a été aux premières loges de l'élaboration du cycle Siècle d'or. Elle s'est investie en particulier dans l'adaptation de Don Juan, comme elle nous le racontera. Enfin, la célèbre chronique Regard sur conclura cette émission. Aujourd'hui, il sera question d'opéra. Je n'en dis pas plus, vous découvrirez ce que Jun Kwon vous a concocté. À présent, entrant sans plus tarder dans le vif du sujet. Ce soir-là, il fait noir et froid dans les rues de Villeurbanne, mais nous apercevons au loin un point de lumière. Par un heureux hasard, il s'agit de l'entrée du TNP. Christian Schiaretti nous y rejoint. L'air fatigué, mais souriant, il commande un verre de vin et s'installe avec nous. L'entretien peut commencer. Christian Schiaretti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du TNP de Villeurbanne depuis 2002 et vous avez mis en scène les œuvres qui constituent ce cycle du siècle d'or.
Oui.
Pour commencer, tout simplement, pouvez-vous nous parler de ce choix de création et de programmation ?
Moi, ça fait partie de mes éblouissements de lecture de jeunesse. Et je suis hispanisant aussi, donc ça joue pas mal.
Ça joue,
et donc, une vraie fascination pour un répertoire méconnu et dont la contribution à l'élaboration et même au débat théorique théâtral est fondamentale. C'est-à-dire que la question de la tragicomédie, elle est au centre de la comédia espagnole, elle est au centre de la définition du théâtre espagnol. C'est une réponse aux règles aristotéliciennes, puisqu'il vise et l'édification et la distraction.
Enfin, comment pensez-vous que ce théâtre, finalement, ce théâtre du siècle d'or, est perçu par les Français aujourd'hui, par la culture française ?
Je pense qu'il est
bien accueilli ?
Non, je pense qu'il est méconnu, je pense qu'il est mal connu, comme d'ailleurs en général la culture espagnole. Je pense que les Pyrénées forment une frontière à part entière et que passer ces Pyrénées et aller vers l'Espagne, c'est aller vers autre chose, un ailleurs. Et qu'il y a une méconnaissance, voire parfois chez les Français un mépris.
Donc finalement, on est encore dans l'espèce de cliché du 19e siècle
un peu,
de l'Espagne,
un
terre
peu,
de feu,
oui, un peu, voilà.
Espagne orientale.
Ou d'une Espagne orientale, oui, et puis même quelquefois tout simplement d'une Espagne malheureusement touristique. C'est-à-dire que la littérature est plus que la littérature. Enfin, le fait que l'Espagne ait contribué tellement à édifier un théâtre de l'idée, en fait, ou des idées, c'est un théâtre de l'allégorie, par exemple. Ne pas le connaître, c'est se priver de ressorts, même dans l'écriture contemporaine théâtrale. Qui a été utilisé chez Claudel, hein, La Lune, par exemple, dans le sujet de Satin, mais qu'on connaît mal. Et aller voir ce qui s'y passe est aussi par rapport à la question religieuse, à la question d'un théâtre qui est finalement un théâtre du dogme, voir que ce dogme-là, que cette écriture-là, qui est souvent d'inspiration jésuite, est d'une complexité redoutable, d'une perversité, d'intelligence incroyable, enfin de manier la contradiction comme ils peuvent le faire, par exemple. Et dans le même mouvement d'évoquer et la luxure chez Don Juan et en même temps la répression, pas simplement de Dieu, mais de l'Église, dans le même temps. C'est assez étonnant.
Vous vous êtes intéressé de près à Calderon, je crois.
Alors, je l'ai fait à la Comédie Française, j'en ai fait deux. Hein. J'ai fait le Cantat du Monde et le Procès en séparation de l'âme et du corps. Mais j'avais déjà au préalable regardé ça de très près, bien avant. Et j'avais même traduit le Grand Théâtre du Monde avec une grande admiration pour ces formes incroyables qui sont des formes de miniature, puisque c'est un théâtre de miniature. Les pièces sont courtes, mais les représentations étaient longues, parce que ce qui nous reste, c'est la trame textuelle, mais il ne nous reste pas la musique, c'est une forme opératique, si vous voulez.
Et est-ce que votre pratique de la traduction joue beaucoup sur l'esprit de votre mise en scène, La façon dont vous regardez la pièce.
Ah oui, oui, oui. Enfin, moi, je ne suis pas traducteur. Hein. Vous savez, là, je travaille avec Florence Delay pour la Célestine, donc ça rend très modeste. Donc, moi, sur le donjon, je bricole, je me débrouille et malhonnêtement, j'investis une tradition qui est liée à ce texte, dont on sait qu'il existe plusieurs versions et dont on sait que les acteurs peaufinaient les versions en fonction des intérêts de la représentation. Donc, ça nous donne une certaine latitude sur nos erreurs et part comme ça d'un mouvement intellectuel, ce qui est en fait un aveu d'incompétence souvent. Donc, on travaille à plusieurs, ça a été fait à quatre mains. Donc c'est une approche qui simplement met à l'épreuve nos différentes lectures et qui ensuite se réalise au plateau. Alors là, par contre, oui, ça aide parce qu'on fait des choix. Et que, par exemple, l'espagnol utilise forcément et souvent la répétition. On va trouver souvent le même mot plusieurs fois qui revient et ça ne gêne pas. Alors que les Français, c'est une faute que de répéter.
Français, oui.
Donc on a choisi de ne pas répéter et d'offrir des variations, de façon à ce qu'on soit dans une langue, somme toute quand même, qui a une sorte d'élégance française qui ne correspond pas à la rusticité que là, Tirso de Molina met à l'épreuve. Mais quelquefois aussi, on renforce un signe ou un sens. Par exemple, on utilise à un moment donné l'ambiguïté du mot « baiser ». Baiser voulant dire aussi bien forniquer que voulant dire tromper. Et là, on joue sur cette ambiguïté, et j'en passe et des meilleurs.
Et donc, si on s'intéresse maintenant de plus près aux trois œuvres qui sont au programme de ce cycle, le siècle d'or, donc déjà, tout simplement, pouvez-vous nous expliquer comment vous les avez choisies ?
J'ai pris les trois grandes œuvres qui incarnent les trois grands mythes de la littérature espagnole, du moins de cette période, ou presque, puisque la Célestine est un siècle antérieur à l'écriture de Don Juan ou du Don Quichotte. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a une thématique commune quand même, notamment entre la Célestine et Don Juan, qui est évidemment celle du désir, au fond. Fondamentalement, c'est ça la question, et du rapport à la femme et à ce qu'elle peut gagner ou plutôt perdre à affirmer sa souveraineté absolue, c'est-à-dire celle de son désir. Et c'est commun, ça, et à Célestine et à Don Juan. Avec un siècle d'existence entre les deux, c'est-à-dire une œuvre médiévale, la Célestine, qui est la préhistoire du siècle d'or, mais qui met quoi en scène ? Qui met en scène une maquerelle et qui va permettre l'assouvissement d'une passion amoureuse, passion dans laquelle la sexualité va confiner à une sorte d'aliénation et qui va aboutir à la mort. Et que cette femme le fait en assumant sur elle-même tout le point de vue mauvais du monde, c'est-à-dire qu'elle est la part mauvaise nécessaire au bien, tout simplement. C'est médiéval au fond. Et après sa disparition, on va glisser doucement vers un arrangement avec le monde qui va passer au travers des canaux poétiques, artistiques, philosophiques ou théologiques. Et ça, on va le voir ensuite dans Don Juan. On pourrait dire qu'il y a une évolution. Le Don Quichotte étant un contrepoint, c'est un cadeau, Don Quichotte. C'est-à-dire c'est une démonstration par la troupe qu'une équipe de 20 acteurs peut, pour un public enfantin, proposer un spectacle avec quasiment 20 acteurs et qui ressemble à un spectacle et qui est d'une ambition haute. Mais c'est une fantaisie à propos de Don Quichotte. Les gens qui vont le regarder ne vont pas voir Don Quichotte, ils vont entendre Don Quichotte, ils vont suivre quelques épisodes de la saga, mais ils vont se retrouver dans un cadre qui va être une métaphore de notre propre condition d'acteur. Et qui, je pense, est comique. Donc, il y a le Don Quichotte, c'est la récréation des deux autres. Enfin, moi, je pense que si je donnais trois adjectifs ou trois substantifs, je ne sais pas ce que je vais dire, mais aux trois, je dirais que la Célestine est une œuvre rhétorique, que le Don Juan est une extravagance, et que Don Quichotte, dans la forme qu'on prend, est une fantaisie. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un jeu sur les genres. Et c'est toujours intéressant de voir une même équipe et un metteur en scène interprète. Donc, ils font des variations de forme. Voilà.
Et un metteur en scène interprète, oui, mais vous êtes face finalement à des œuvres qui ont tellement laissé en héritage des figures, des mythes, que ça doit être un véritable défi, finalement, de faire face à quelque chose, à ce point chargé d'imaginaire collectif.
Oui, c'est vrai. Alors maintenant, en France, la Célestine n'est pas très chargée. Hein. La dernière Célestine, erreur, c'était Jeanne Moreau avec Antoine Vitesse. Et c'était pas réussi précisément parce que l'actrice éponyme, c'est-à-dire Jeanne Moreau, arrivait avec une Célestine dont, disons, le passé suave et sensuel était acquis. Et même, c'était même la marque de fabrique de l'actrice. Donc, si vous voulez, il y avait une sorte de délectation un petit peu comme ça, sensuelle et languissante. Qui n'est pas le cas. Cécile, c'est un vétérinaire. C'est-à-dire qu'elle a un rapport au corps qui a un rapport d'utilité, c'est une maquerelle. Elle n'est pas là pour se réjouir, elle est pas là. C'est pas sa question. C'est un personnage qui est plus proche de Mère Courage que de je ne sais quelle tenancière de bordel. C'est ça, vous voyez. Alors que donc du coup, moi j'ai que ça comme référence puisque j'ai pas vu en France d'autres mises en scène de la Célestine, donc je me sens pas impressionné. Et puis je dois dire que c'est une œuvre que j'ai lue très jeune et que je porte devant moi depuis, je sais pas moi, 20-25 ans. Et que l'amitié, j'espère pouvoir le dire, qui me lie à Florence Deleffe et qu'on a une connaissance très intime de l'œuvre, je trouve. Donc je me sens pas du tout impressionné, c'est peut-être prétentieux, Célestine, pas du tout. Et leur donjon, je m'en fous. C'est-à-dire que, au fond, c'est la même chose. Je pense que on connaît pas le donjon de Tirso de Molina. Et le donjon de Tirso de Molina, c'est le donjon d'avant Don Juan. C'est-à-dire que c'est là justement le
premier modèle.
Ben oui, parce que c'est là où le mythe se crée. Finalement, là, je viens de regarder la scène du commandeur, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe au fond? Il se passe qu'un type qu'on a tué vient nuitamment chez vous pour vous inviter à manger. C'est pas mal. Mm-hmm. Au fond, c'est pas un drame. Et on va manger chez lui. Et là, vous êtes tué. Mais qui vous tue? Est-ce que c'est la statue ou est-ce que c'est un appareil beaucoup plus compliqué qui s'appelle l'Église catholique? Et que si finalement Dieu décide d'envoyer ou de faire de cette statue de pierre son bras armé, il lui demande de le faire dans une esthétique catholique. La scène de mort de Don Juan chez le donjon de Tirso de Molina se joue dans une église. C'est pas un hasard. Et dans cette église, on demande confession. Ça veut dire qu'il y a une rédemption possible. Ça veut dire que la rédemption supprimerait l'effet de cette statue et cette rédemption lui est refusée. Franchement, on assiste à un meurtre et pas du tout. Après, une fois que ce meurtre est fait, la légende, le mythe peut s'installer. Mais on est là plus proche du fait divers. Ça, c'est une chose. Et puis ensuite, c'est un théâtre qui est à la fois, je vous le dis, de cap et d'épée, il y a des combats, et en même temps liturgique. Donc il mêle les deux dans le même mouvement. Et de ce point de vue-là, j'ai pas le sentiment là non plus d'avoir été impressionné ou bouleversé par des mises en scène autres. Je serais bien plus impressionné si je montais le Don Juan de Molière ou celui de Mozart. Mais là, je me sens indiscipliné. Je me sens mauvais garçon.
Et en même temps, vous revenez à la racine du mythe.
Du fait divers. C'est-à-dire que je pense que c'est ça. Je pense que la grande différence, d'abord, c'est que chez Tirso de Molina, Don Juan est un impie et pas un athée. C'est la question de la croyance, elle est absolue. C'est la question du temps. Et que l'Église catholique a mis en place un dispositif qui, si on a confession, peut vous absoudre de vos fautes. Donc quel est le problème? Et quand on est en plus d'un milieu politique et social qui vous favorise, il n'y en a pas. Et ce qu'on assiste, au fond, c'est une corruption totale de tout le système politique espagnol, de la décadence qu'est le siècle d'or. C'est-à-dire la perte de l'Empire, on est chez Philippe IV, on est après Charles Quint, Philippe II, III, IV. Et donc, on est face à un système politique de désœuvrés. Il y a une génération qui est ainsi. Et en quelque sorte, la perversion de ses mœurs est un écho à l'immobilisme de la société à laquelle il a affaire. Et c'est pas sans rapport avec la société d'aujourd'hui, d'ailleurs. Et simplement, ce qui se passe, c'est que son libertinage fait que les femmes se révèlent dans la plénitude de leur jouissance. Il y a une remise en cause d'un patriarcat, et il faut le tuer pour que la société fonctionne. Et on le tue.
Pour continuer avec Don Quichotte, maintenant, comment mettons en scène ce qui est considéré comme le premier roman moderne?
Alors, là aussi, écoutez, je vous dis comment ça se passe.
Ah oui.
Bon, les gens vont arriver, et je ne devrais pas le dire.
Mais ne dites pas tout, hein.
Je ne vais pas tout vous dire, mais enfin, je vous donne le début. Quand les gens vont arriver, avec leurs enfants, puisque c'est cadeau, quoi, on va leur dire qu'il n'y a pas de représentation. Parce que Radio Mauve, France Mauve, qui est une radio nouvellement dédiée aux grandes œuvres de l'humanité, sachant qu'on montait le Don Quichotte, est venue voir un filage et nous a demandé de faire un enregistrement, une captation sonore de l'œuvre. Donc on ne peut pas le remontrer. Ce qu'on peut leur proposer, par contre, c'est d'assister à l'enregistrement. Et donc, à partir de là, ils vont assister à un enregistrement de Don Quichotte. Et pour l'enregistrer, il y a des acteurs qui sont là, il y a évidemment un régisseur son, il y a deux conteurs, il y a un espagnol qu'on a fait venir pour qu'il témoigne vraiment et qu'il raconte l'histoire pour faire au niveau sonore une très jolie chose. Et il y a un bruiteur qui fait tous les bruits pour accompagner le récit. Et il y a un imitateur universel qui est un homme qui habite un tout petit pays entre Moldavie et Liechtenstein et qui est un pays où le spectre auditif des habitants est extrêmement large, ce qui fait qu'il est capable d'imiter n'importe quelle langue. Et quand il imite, il le parle parfaitement. Il ne parle pas français, mais il imite tellement bien qu'il peut le parler. Donc ce garçon est là pour faire plusieurs voix si on en a besoin. Et l'enregistrement commence donc comme un enregistrement dramatique. Alors on a la musique d'introduction, on a les titres de chapitre, et puis on a, en réduit bien sûr, le récit des aventures de Don Quichotte du mot au début. Et il se trouve simplement que le garçon qui est bruiteur a beaucoup d'affection pour Don Quichotte et petit à petit devient Don Quichotte. Voilà, on s'arrête là. Et donc tout est sur une métaphore où Don Quichotte n'est pas pris du point de vue de l'héroïsation diagonale, si vous voulez, de son point de vue sur le monde, mais il est pris du point de vue de sa pathologie. C'est-à-dire que Don Quichotte est fou. Et qu'à partir de là, il est lui aussi évidemment un bras de levier incroyable pour faire disjoncter la réalité, et notamment la réalité totalement mensongère des effets qui sont les effets radiophoniques ou médiatiques qui aujourd'hui dominent. Donc en fait, on est en écho de ce que raconte l'œuvre, mais dans un univers totalement contemporain.
Et c'est par cette orientation-là du personnage de Don Quichotte que vous allez représenter cette confusion qu'il habite entre le rêve et la réalité.
Absolument, qui habite donc le gars qui le dit. C'est comme lui, en lisant les romans de chevalerie, je me prends pour un chevalier, et bien lui, en racontant Don Quichotte, il se prend pour Don Quichotte. Mais il se prend pour Don Quichotte en réinvestissant la sphère très appauvrie de l'héroïsme contemporain.
Vous êtes parti de l'adaptation de Jean-Pierre Jourdain, je crois.
Lui, il avait pris le roman, puis il avait résumé les chapitres, il avait donné une forme condensée. Il ne s'attendait pas à ce que moi je me mette à délirer sur un studio d'enregistrement dans lequel quelqu'un se prenait dans Don Quichotte, etc. Une des absurdités, par exemple, c'est que dès qu'il commence dans un village de la Manche, ce que vous entendez, c'est du vent et des mouettes. Et y a l'Espagnol qui regarde et il explique au public aussi qu'il n'y a pas de mouettes dans la Manche, parce qu'il explique où se trouve la Manche en Espagne. On dialogue, comme on s'arrête à chaque épisode, il y a des dialogues avec la salle. Donc on fait l'exégèse, si je puis dire, de Don Quichotte en même temps qu'on en fait la fiction.
Donc une sorte de rêve éveillé pour les 8 ans et plus.
Ah oui, plus.
Voilà, alors je rappelle les dates du cycle Siècle d'or. Ce sera du 21 décembre au 27 février. Et je crois qu'ensuite, vous allez jouer ailleurs.
Ensuite, on va jouer aux Amandiers, oui, à Nanterre. Et donc, voilà, donc on va jouer là-bas un mois.
Nous attendons avec impatience le résultat de cette aventure.
Ah, mais vous avez intérêt.
Et merci beaucoup de nous avoir reçus.
Mais de rien. De rien.
Nous remercions encore Christian Sciaretti pour cet entretien accordé après une dure journée de répétition. Et je me tourne maintenant vers Pauline Noblecourt, qui est venue nous rejoindre dans notre petit salon afin de continuer la discussion sur cette trilogie Siècle d'or. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Alors, en effet, chers auditeurs, vous connaissez forcément Pauline Noblecourt comme présidente d'Enseigne. Mais nous la recevons aujourd'hui en tant que collaboratrice à part entière du Don Juan présenté par le TNP. Alors Don Juan, venons-y tout de suite. Est-ce que tu pourrais, Pauline, nous faire le portrait de Don Juan, le portrait de ce Don Juan créé par Tirso de Molina en 1625? Qu'est-ce qu'il caractérise et qu'est-ce qui surtout le différencie de son jeune cousin, en quelque sorte, le Don Juan de Molière, né pour sa part en 1633?
63.
1663, pardon, j'ai mal lu, mais j'avais bien noté.
En fait, c'est des pièces très très différentes. Parce que le Don Juan de Tirso est une pièce qui finalement ressemble à beaucoup d'autres comédias espagnoles et qui n'a pas nécessairement en elle le devenir du mythe. Mmh. C'est une pièce, moi, qui m'a d'abord beaucoup séduite par sa musicalité. Elle est écrite en vers, il y a quelque chose de très, très sautant, sautillant dans le texte, dans ce Don Juan qui est toujours prêt à faire d'autres manigances, d'autres tromperies et qui finalement n'a pas vraiment une vision théologique ou de son destin et qui n'a pas de revendication athéiste ou autre. Par rapport au Don Juan de Molière, c'est finalement une pièce qui est davantage une pièce de réjouissance, de plaisir, qui, avec énormément de cap et d'épée, énormément de scènes de séduction et un Don Juan beaucoup plus bête finalement que celui de Molière. Et je pense que c'est ce que Christian a à cœur de montrer dans sa mise en scène, c'est-à-dire d'accentuer sur un Don Juan qui est écrit, qui est une pièce bien sûr d'édification parce qu'écrite par un jésuite, mais qui en même temps n'a aucune revendication de révolte ou de métaphysique au-delà du simple plaisir de vivre. Et finalement, Don Juan est plus le moteur d'une action qu'il dépasse et d'un bouleversement dont il n'a aucune conscience. Voilà.
Et d'autre part, Pauline, tu as activement pris part à l'élaboration du texte français de Don Juan. Tu as collaboré avec 3 autres personnes. Donc Christian Sciaretti, bien sûr, Gérard Garouti et également Sacha Todorov, donc autre élève de l'école en stage avec toi. Et pourrais-tu nous parler de cette expérience? En quoi a-t-elle consisté finalement?
Ça a commencé en fait en juillet. Christian a essayé de nombreuses traductions et finalement il a réalisé que les traductions dont on disposait ne lui convenaient pas par rapport véritablement au travail qu'il avait en tête pour le plateau, même s'il y en avait de très convaincantes et notamment au niveau universitaire de très belles. Et du coup, il a peu à peu décidé de lui-même faire la traduction. Et c'est là qu'on a eu beaucoup de chance, je pense, Sacha et moi, qui nous propose de participer à ce travail qui a été absolument incroyable et vraiment très, très intéressant. Le problème des traductions dont on disposait, c'est que c'était des traductions centrées peut-être un peu trop sur l'exégèse universitaire, des fois avec des textes qui ne passaient pas forcément bien au plateau, qui ne rendaient pas vraiment compte de la rythmique, comme j'ai dit, un peu très sautante du texte espagnol, du côté finalement très amusant de ce texte. Sacha et moi, on faisait des pré-travaux, des brouillons, en fait, qu'on relisait après avec Gérald et Christian et qui corrigeaient complètement, qui changeaient. C'est vrai que c'est un grand privilège de travailler avec Christian, qui est une personne qui a à la fois une oreille très littéraire et en même temps un sens aigu de ce qui va passer au plateau ou pas. Et je pense que pour avoir conscience de ce qu'est un texte de théâtre, c'était vraiment un atelier formidable.
Et d'ailleurs, donc, tu parles du texte, de cette vivacité du texte, de cette force du texte. Et comment est-ce qu'à la parole, on associe l'image ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la mise en scène ? Avez-vous opté pour une modernisation, pour une reconstitution, pour immerger le spectateur dans une sorte d'Espagne de féerie avec toute cette mythologie du siècle d'or ?
Je pense qu'à la base, c'est un spectacle de Christian, donc je ne sais pas si vous voyez un peu ce qu'il fait comme mise en scène.
Au moins pour les auditeurs, je pense que c'est bien voilà. Si tu peux resituer un petit peu.
C'est toujours quelque chose d'extrêmement moderne, mais en même temps qui esthétiquement prend appui sur la donnée historique. Par exemple, j'ai pas encore vu tous les costumes, mais je sais que celui qui les fait, c'est Thibault, le costumier du TNP, qui les a loués, qui en a fait certains. Et je pense que ça sera vraiment du costume historique magnifique, quelque chose de sublime, quoi. À côté de ça, c'est vrai que les mises en scène de Christian, c'est toujours quelque chose qui est beaucoup plus centré sur le plateau, sur l'écriture au plateau, sur la géométrie presque du déroulé du spectacle et la compréhension du spectateur. Donc je ne pense pas qu'il y ait du tout chez lui de recherche d'une reconstitution, mais plutôt d'une vérité du texte qui serait à trouver ni dans la modernisation forcée du propos, ni dans la reconstitution historique bête, mais vraiment dans la compréhension dramaturgique de ce que dit la pièce.
On voit à ta façon d'en parler, en tout cas, que tu as vécu une expérience formidable.
Oui, oui.
Et justement, donc à propos d'expérience, y aurait-il une anecdote ou même, ne serait-ce que dans la pièce, un moment de la pièce, un élément de décor, un bout de phrase que tu retiendrais tout particulièrement ?
Moi, ma scène, une de mes scènes préférées, je pense que c'est la mort de Don Juan, parce que je trouve que c'est un peu aussi ce qu'on a vu en dernier, donc ce sur quoi je suis le plus en ce moment, mais je trouve vraiment que ce qu'ils en font en termes théâtral est vraiment intéressant, parce que tout d'un coup, ça devient drôle, ça devient... On voit que Don Juan est en fait juste un lâche idiot qui s'est retrouvé là et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Et je pense que par rapport même au mythe de Don Juan qui se construira par la suite, monter cette fin de cette façon, c'est à la fois très innovant, c'est à la fois très courageux et en même temps c'est vrai, quoi.
Je pense que tu ne pouvais pas aiguiser de meilleure manière la curiosité et de nous et des auditeurs, donc on encourage à aller voir ce Don Juan. Mais évidemment, merci d'être venu nous parler en tant que stagiaire de cette expérience dont Célia a rappelé combien elle devait être passionnante, mais on ne peut pas te laisser partir sans parler d'Enseigne, dont tu es la présidente cette année. Comment s'annonce cette année 2011 qui va bientôt commencer ? Est-ce que vous avez des projets marquants ?
Oui, je pense que la plupart des projets qui seront présentés sont vraiment intéressants. Déjà, il faut savoir que cette saison marque les 10 ans d'Enseigne.
Ah.
Donc on va essayer de fêter ça peut-être au mois de mai et... Et en tout cas, on essaye de proposer quelque chose de toujours plus intéressant, toujours plus varié. Donc on a de nombreux projets pour l'année, en théâtre notamment. En janvier, je vous invite tous à venir voir Paris, Berlin, New York, qui est un spectacle musical avec des airs d'opérette. En février, on a une pièce beaucoup plus expérimentale, Charles VI, qui a été écrite par un élève de l'école et qui parle de l'incapacité à agir avec la figure de Charles VI, le roi fou. En mars, on a un projet qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Je pense que ça va vraiment être quelque chose d'intéressant. C'est Le Château des Cœurs de Flaubert. Très ambitieux, très Absolument.
C'est une véritable création de toute pièce.
Voilà, c'est ça. Avec
et
des
d'autres associations, je crois que Champs Libres et En Plastique sont aussi dans
voilà,
le projet.
Voilà, on va essayer de faire des liens avec des musiciens, des plasticiens, des danseurs. Enfin, c'est vraiment, je pense que ça va être quelque chose d'assez éblouissant. En avril, on aura donc le Club Théâtre, ainsi qu'un spectacle hors cantor qui s'appelle « Tu seras une femme, ma fille ». En mai, on aura un autre spectacle musical basé sur un texte de Pushkin, et donc ça s'appellera « Chanson d'octobre », ainsi qu'une une pièce de La Fontaine, Climène, qui se jouera dans les jardins. Et en juin, on aura un texte de Albi, « A Delicate Balance ».
Je pense que les auditeurs, après cette présentation, seront nombreux à suivre la saison d'En scène.
Et juste pour ajouter, au niveau du cinéma, on va organiser deux nuits du cinéma. Une sur le cinéma engagé, en partenariat avec la section Sud, donc le 9 février. Une sur le cinéma Bollywood, plutôt en avril.
Oh.
Et enfin, on aura une rétrospective en 35 mm sur Jacques Demy.
Oh, formidable. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Merci Pauline d'avoir répondu à l'invitation de Transversar. Bon début de saison 2011.
Merci à vous de m'avoir invité.
Et bravo pour tous ces projets. Nous suivrons ça de près. Passons maintenant au regard sur. Jun Kwon, le chroniqueur du jour, va nous parler de la saison Viva l'Opéra, organisée par les cinémas UGC. On l'écoute tout de suite.
Bonjour à tous. Je vais vous parler dans cette chronique de la première saison Viva l'Opéra des cinémas UGC, qui s'annonce déjà comme un succès. Alors il s'agit d'une série de séances de cinéma à 10 euros pour les moins de 26 ans où seront projetées des représentations d'opéra qui ont été filmées. Alors on a une double garantie quant à la qualité des productions qui seront projetées. Premièrement, elles ont été jugées suffisamment bonnes pour être filmées. Et par surcroît, ces enregistrements ont été sélectionnés par les organisateurs de cette saison pour être projetés. Donc on peut donc, sans prendre trop de risques, parier qu'il va s'agir de productions de très haut niveau, aussi bien sur le plan de la musique, du jeu d'acteur, de la mise en scène, des costumes, des décors, etc. On aura également un autre avantage de taille, qui est que chacun pourra bénéficier au cinéma d'un son et d'une image exceptionnelle, ce qui n'est pas du tout le cas à l'opéra, où seules les meilleures places qui coûtent entre 150 et 200 euros offrent des conditions excellentes, et encore. Alors en plus de ça, on aura régulièrement des gros plans sur les visages des chanteurs qui permettront de profiter de tous les détails de leurs expressions faciales, du jeu d'acteur en général, et enfin on aura une parfaite lisibilité des sous-titres, ce qui n'est pas du tout le cas à l'opéra, où les sous-titres sont au-dessus de la scène, où parfois on se tord le cou pour les voir, et donc on bénéficiera du confort de pouvoir profiter en permanence et de l'image et des paroles. Donc parmi ces projections, il y aura le Roméo et Juliette de Gounod, dont je vais vous parler plus en détail maintenant, qui sera projeté le jeudi 3 février à 19h45 à l'UGC Ciné-Cité de Lyon. Alors Charles Gounod était un compositeur français du 19e siècle, né en 1818, mort en 1893, et donc on est en plein dans le romantisme français. Paris est d'ailleurs le berceau du grand opéra, donc cette combinaison de spectacles à grands effets, avec beaucoup d'action, de ballet, avec beaucoup de personnages, un grand orchestre. Et donc Gounod est l'un des plus illustres représentants. Donc son opéra le plus connu est Faust, qui est adapté de la pièce de Goethe, dont on connaît tous l'air, âge, rythme, voir si belle en ce miroir, que chante la Castafiore dans Tintin à sa manière. Faust a eu un énorme succès lors de sa création, puisqu'il a donné lieu à plus de 70 représentations la première année, c'est pas rien. Et Roméo et Juliette, que Gounod considérait comme étant son œuvre la plus aboutie, n'a pas pu égaler cette popularité, bien qu'ayant été reçu de manière très enthousiaste par le public, et se payant même le luxe de voler la vedette à l'opéra Don Carlo de Verdi, qui avait été composé pour l'exposition universelle qui se tenait à ce moment-là. Roméo et Juliette est un opéra en 5 actes, en français, créé en 1867, adapté bien évidemment de la pièce de Shakespeare, donc bon, je ne vais pas en rappeler le résumé ici, mais simplement dire qu'on peut noter parmi les moments mémorables l'air « Ah, soleil, lève-toi » de Roméo dans la fameuse scène du balcon, et l'air « Je veux vivre » de Juliette, aussi appelée la valse de Juliette, qui déborde de jeunesse et de vitalité. « Je veux vivre dans le rêve qui m'enivre ce jour encore, douce flamme je te garde de mon âme comme un trésor », et qui ne rend que plus douloureuse la fin tragique que l'on connaît. Donc dans la représentation qui sera projetée, le rôle de Juliette sera tenu par Nino Macazze, donc une jeune soprano géorgienne de 28 ans, et celui de Roméo par le franco-mexicain Rolando Villazon, qui est l'un des plus grands ténors actuels, sinon le plus grand. Je rappelle que c'est le jeudi 3 février à 19h45 à l'UGC Ciné-Cité de Lyon, mais pas seulement. Si vous n'êtes pas à Lyon à ce moment-là, c'est également projeté le même jour à Paris, à Nantes, à Bordeaux, à Lille, Strasbourg ou encore Rouen. Et également les jeudis 10 et 24 février à Paris, en région parisienne. Vous pouvez retrouver toutes ces dates sur le site des cinémas UGC. Et alors les autres opéras qui seront projetés jusqu'à l'été seront Mireille de Gounod en mars, Manon de Massenet en avril, Tosca de Puccini en mai, Faust de Gounod justement en juin, jusqu'à Carmen de Bizet en juillet. Donc je répète encore une fois qu'il s'agit de conditions excellentes, aussi bien pour l'image que pour le son, et surtout que cela coûte seulement 10 euros. Hein. Donc c'est à peine plus cher qu'une place de cinéma normale, c'est le prix de 2 pintes de bière en happy hour, le prix de 2 paquets de cigarettes, il faut être fou pour passer à côté de ça. Donc il n'y a plus aucune excuse, et surtout pas celle selon laquelle la musique classique serait inaccessible à cause du prix des places. Donc la vente des places se fait non pas au guichet mais par internet, sur le site ugc.fr, et je vous conseille de vous y prendre le plus tôt possible parce que ces projections ont manifestement, et à très juste titre, un très grand succès. Voilà, c'est tout pour cette chronique, à bientôt.
Merci beaucoup Jun Kwon pour cette chronique passionnée, voire propagandiste. Et malheureusement, chers auditeurs, cette édition de Transversar touche déjà à sa fin. Il me reste à vous rappeler que la trilogie Siècle d'or se tient au TNP jusqu'au 27 février. Puis, d'ailleurs, je tiens à vous annoncer que Don Juan et la Célestine partiront ensuite en tournée au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Et nous remercions bien évidemment, avant de terminer, Xavier de NS Media et Imad qui étaient en régie pour cette émission. Puis nous vous remercions, vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés.
À bientôt.
Transversal.